Merci les musiciens, c'est un beau chant que j'aime particulièrement. C'est un chant que Raphaël, je dis ça, notre ami Raphaël le Gitan chantait dans ses réunions. Et la première fois que j'ai entendu, c'était le 1er juin 1968, alors que j'avais 18 ans. Et voilà, tout était bien dans ma vie, j'avais une gentille famille, tout ça, mais le diable était passé de bonheur. Mais voilà. Jésus m'a sauvé et j'ai compris ce que Raphaël le Gitan disait. J'avais entendu bien des pasteurs avant, mais jamais j'avais compris pourquoi Jésus était venu sur la terre, pourquoi il avait fait toutes ces choses extraordinaires et pourquoi il s'était laissé avoir par une bande de Romains en jupette pour se faire crucifier. J'avais jamais compris, personne ne m'avait vraiment expliqué, ou alors j'étais bouché. Mais là, j'ai compris et j'ai accepté, j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai compris qu'il s'était sacrifié à ma place, qu'il avait donné sa vie afin que moi, je n'ai pas à la donner, qu'il est mort afin que moi, je ne meure pas éternellement. Et ça a été une révélation, un choc. Et il chantait cette chanson, « Il faut si peu de choses ». Et c'est pourquoi elle est devenue un hymne dans notre communauté. On va commencer en lisant Romains chapitre 12, verset 2. C'est une épître de Paul. Alors, j'ai pris beaucoup de notes et je vais beaucoup lire ce matin parce que je ne veux pas me planter dans ce que je veux vous dire, parce que c'est assez important. Romains 12, 2. C'est Paul qui parle et qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est clair? On va développer ça. Dieu ne se sert jamais, jamais de quoi que ce soit qui respire la contrainte. Jamais. Il ne cherche pas à nous subjuguer pour nous faire obtempérer par la force, jamais. Son principe invariable, c'est de nous donner l'occasion de choisir. Dans la communauté, nous croyons dans le libre arbitre. Mais, j'ai écrit cela dans mon bureau, je l'ai encadré, parce que je crois que c'est nécessaire. Le libre arbitre, c'est l'illusion de ceux qui n'ont pas le pouvoir de la foi. La foi, elle vient de ce qu'on comprend des Écritures, et quand on comprend ce qu'il y a dans les Écritures, on n'a pas besoin de choisir. C'est un choix que j'ai fait moi le 1er juin 1968 quand Raphaël a prêché. J'ai choisi de marcher avec Jésus. Et quand on choisit de marcher avec Jésus, eh bien on apprend petit à petit comment marcher de mieux en mieux en faisant des progrès. Et on n'a pas à choisir. Choisir quoi? Oui, c'est vrai, on a choisi de quitter la Normandie pour venir dans le sud-ouest. Dieu nous a parlé de le faire. Mais c'était très intelligent de le faire, non? Vous ne trouvez pas? C'est très bien, on est très bien ici. Il y a des tas de choix comme ça. Oh, bon, ben. Alors ça change la vie, mais pas vraiment profondément. Alors qu'il y a des choses qu'on fait qui peuvent changer la vie d'une façon très négative. Certaines fréquentations, certaines. Voilà, ça peut changer la vie d'une façon des fois négative. Le libre arbitre, c'est l'illusion de ceux qui n'ont pas le pouvoir de la foi. Il faut connaître les lois de l'esprit. Il y a des lois pour tout. Il y a la loi de la pesanteur. Il y a des lois pour tout. Tout marche avec des lois. Les lois, c'est pas fait pour nous embêter. C'est fait justement pour que on ne soit pas surpris. Supposons qu'il n'y ait pas la loi de la pesanteur, ben, tout flotterait. Ça serait très embêtant, non? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà. Et c'est grâce aux lois de la nature qu'on a découvertes qu'on a pu faire des progrès scientifiques extraordinaires, qui nous permet de vivre relativement bien, en tout cas de ce côté de la planète. Il faut connaître donc les lois de l'esprit, parce que le Saint-Esprit a des lois Et notre esprit aussi a des lois. Alors il faut savoir, et ça malheureusement, même dans les milieux chrétiens, les gens ne savent pas toujours faire la différence entre l'âme et l'esprit, d'après ce que nous lisons dans les Écritures. Nous sommes formés d'un corps et d'un esprit. Et c'est quand le corps et l'esprit fusionnent que nous devenons une âme vivante. C'est-à-dire que nous avons une mentalité, nous avons une intelligence, nous sommes un être, nous pouvons... Voilà, vous êtes des âmes vivantes. Âme, ça signifie être. Mais quand on vient au monde, notre esprit, il est un peu en sourdine. Notre esprit, il est éternel et il a oublié le passé éternel. C'est fait exprès. C'est nous qui avons choisi ça. Des gens disent « Oh, moi, j'ai pas choisi de venir vivre. » Si, si, on a tous choisi de venir sur cette terre, mais la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Ou alors, ils ne veulent pas le savoir et puis ce qu'ils veulent, c'est se révolter parce que, voilà, bon... Les Juifs, ils ont une très jolie histoire, c'est pas dans la Bible, mais c'est très joli. Ils disent que cette petite marque qu'on a là, en dessous du nez, c'est le doigt de Dieu. Que quand on est venu au monde, Dieu a mis son doigt là, sous notre nez, et il a fait chut, et il a effacé notre mémoire. Alors on se rappelle pas, notre esprit ne se rappelle pas. Et on doit redécouvrir les choses de Dieu, les choses spirituelles, on doit les redécouvrir. Et ce matin, on va développer un peu ça. Il faut connaître ces lois de l'Esprit de Dieu et de notre esprit pour pouvoir être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors quand je dis Saint-Esprit, je veux dire Dieu. On doit pouvoir être en communion avec Dieu, c'est-à-dire pouvoir le connaître, le comprendre, savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, eh bien notre esprit doit connaître, comme par exemple Olivier, si je ne sais pas qui il est, je ne peux pas avoir beaucoup de communion avec lui. C'est normal, c'est la même chose avec Dieu. Si on n'a pas de communion avec lui, si on ne lui parle pas, si on n'écoute pas ce qu'il dit dans les Saintes Écritures, si on n'écoute pas les ministres qu'il a envoyés, c'est-à-dire il y a cinq sortes de ministères, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, et je ne sais plus, apôtre, si on n'écoute pas les cinq ministères, eh bien on n'a pas beaucoup de chances de pouvoir grandir. La Bible dit que Dieu a donné ces cinq ministères pour l'édification de l'Église. Et malheureusement, les gens, maintenant, il faut dire qu'il y a tellement de scandales dans l'Église que ça dégoûte un peu les gens. Mais ça leur donne aussi des excuses pour ne pas y aller, hein. Faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Ça les embête, ils préfèrent faire la sieste ou aller faire leur sport le dimanche matin plutôt que d'aller écouter le bon pasteur qui prêche. Eh bien voilà. En tout cas, ce qui nous est imposé ne vient jamais de Dieu. C'est l'œuvre du malin. Dieu n'impose rien. Dieu attend que ses enfants le suivent de cœur. Ça doit être une histoire d'amour ou alors c'est pas une histoire... Qui peut marcher. Et Dieu ne nous forcera pas à lui obéir, mais les conséquences qui découlent de nos actions, de notre désobéissance, de notre méconnaissance, de notre négligence, les conséquences vont nous pousser à réfléchir. Ou pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils disent « Ouais, s'il y avait un Dieu... » Voilà, c'est tout leur... Ah, c'est comme ça que je voulais faire. Il faut essayer d'expliquer, n'est-ce pas? Mais c'est difficile d'expliquer à des gens qui, la plupart du temps, ne veulent pas comprendre. Eh bien, ces conséquences, elles nous font réfléchir. Tout ça pour dire que, pour faire la volonté de Dieu, il nous faut quelque chose de plus qu'une attente passive d'une intervention divine. Dieu ne va pas intervenir comme ça pour vous. Non. Il faut plus que ça. Bien sûr, de sens, ça peut arriver. Ça peut arriver que Dieu intervienne, bam, sur la scène de votre vie, et puis alors vous êtes convaincu, mais c'est rare, c'est extrêmement rare. Parce que c'est presque un viol, ça. si vous voyez Dieu, si vous entendez sa voix, si vous, vous allez être convaincu, puis voilà. C'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le cherche. Celui qui cherche, il trouve. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, tous les chrétiens veulent être conduits par le Saint-Esprit. Si vous demandez à un chrétien, est-ce que tu veux être conduit par le Saint-Esprit, c'est sûr qu'il va dire oui. Mais on dirait qu'ils veulent ignorer que notre intelligence doit collaborer activement. Nous marchons par l'Esprit de Dieu quand nous exerçons notre être intérieur à agir conjointement avec le Saint-Esprit, à condition que nous utilisions en même temps notre pensée pour suivre les mouvements de l'Esprit. J'explique, on ne réfléchit pas avec notre esprit, on réfléchit avec notre intelligence. Notre intelligence, ce n'est pas notre esprit, c'est notre être, notre âme. Mais si notre âme refuse, parce que elle a des goûts spéciaux, parce que ceci, parce que cela. Si notre âme refuse d'écouter des injonctions du Saint-Esprit, nos pensées ne veulent pas chercher à comprendre, eh bien, à ce moment-là, on ne risque pas de pouvoir entendre le Saint-Esprit, même s'il nous hurlait dans les oreilles. Alors, nous pouvons apprendre par des révélations directes de Dieu, mais le plus souvent, on apprend, nous recevons la vérité par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, ce que je suis en train de faire maintenant. Je prêche, c'est une prédication, et vous vous écoutez et vous recevez ou pas ce que je dis. Ou alors par une lecture, vous lisez la Bible, vous lisez un bon livre chrétien, et puis ouais, tout d'un coup vous dites « Ah, mais c'est génial, j'avais pas compris ça, c'est super, c'est formidable ». Ces révélations ainsi reçues par les enseignements ou par les lectures, ça passe par notre intelligence, c'est-à-dire par notre âme. Ça passe par notre intelligence. Donc il nous faut une intelligence renouvelée spirituellement. Il faut que notre intelligence soit mise en contact avec les choses de l'esprit, avec les choses de Dieu. Parce que si nous avons des a priori, par exemple à l'égard de celui qui enseigne, la vérité ne va pas pénétrer notre intelligence parce qu'on a des a priori. Alors ça ne pénètre pas notre intelligence et ça ne risque pas d'influencer notre vie, notre vécu. Le prédicateur peut être un excellent prédicateur, dire les plus grandes vérités, mais si vous avez des a priori, alors ça ne va pas entrer dans votre intelligence, vous mettez des barrières et ça ne va rien changer à votre vie, vous aurez entendu les plus belles choses. Moi j'ai vu des foules écouter T.L. Osborne et ça ne leur a rien fait du tout. C'est curieux. Moi, ça a bouleversé ma vie. Enfin, je ne suis pas le seul, il y en a des milliers et des milliers de par le monde. Mais j'ai vu des fois, les foules disaient, c'était là, disaient, ah oui, c'est bien, c'est bien, oui, ben, c'est bien. Ah, ben. Et puis c'est tout, ça ne changeait rien. Ils avaient des a priori. Quelle sorte d'a priori? Oh, ben c'est un Américain. Les Américains, hein, les Américains, voilà. Une espèce d'anti-américanisme primaire. Ça ne les empêche pas de manger McDo, ça ne les empêche pas de porter des jeans, ça ne les empêche pas d'écouter de la musique américaine. Ça les empêche pas. Mais là, c'était une excuse, c'est américain. Alors voilà pourquoi je ne m'étonne pas qu'il y ait tant de croyants qui ne retirent aucun profit de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils lisent. Ils en sont toujours au même point. Moi, je suis désolé, je me suis converti le 1er juin 1968, mais j'ai progressé. Il y en a, ils ne progressent pas. Quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est leur vie chrétienne, ils vont vous raconter ce qui s'est passé il y a 50 ans quand ils se sont convertis dans une réunion. Mais il ne s'est rien passé depuis. Oui, certaines choses, ils ont arrêté de fumer, ils payent leurs impôts, ils sont honnêtes, ils sont polis, ils sont gentils. Mais ce n'est pas être chrétien, ça. Il y a des païens qui font la même chose. Hein? Ce sont des gens qui ont choisi d'avance ce qu'ils sont disposés à recevoir. Un disciple de Jésus, quelqu'un qui est discipliné, un disciple de Jésus, vous allez me dire, en Suisse, on a plus de chance parce qu'on nous apprend à être discipliné, tout petit. Alors, les Français disent, ouais, bête et discipliné. Non, 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 non. Intelligent et discipliné. C'est bien. Quand on respecte les lois de la nature, c'est intelligent. Si on ne les respecte pas, c'est de la bêtise. Donc, si on se discipline, c'est... Alors, voilà. Un disciple de Jésus qui est au courant du processus, parce qu'il y a un processus par lequel se transmet la vérité à notre vie, eh bien, il va comprendre sans peine l'importance d'une intelligence qui est libre de tout obstacle. On s'en fout qu'Osborne avait une moustache comme ça. On s'en fout qu'il était américain. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas le bonhomme qui est important. C'est le message. C'est ça qui est important. En plus, le bonhomme, il était super sympathique, super gentil, super intelligent. Mais bon, ils ont rien vu de tout ça. La France, c'est le seul pays au monde dans le milieu chrétien qui n'a pas reçu Frère Osborne. Le seul pays au monde. La France, croyant tellement plus intelligent. C'est un pays d'orgueilleux, c'est effrayant. C'est effarant, c'est incroyable. J'ai voyagé dans 70 pays, je peux vous dire, c'est incroyable la France, comment les gens sont durs. C'est par l'intelligence que la vérité est d'abord comprise quand elle nous vient de la part d'un ministre de l'Évangile. Ensuite, elle atteint notre esprit, si on veut. Et ça stimule notre esprit. Et puis alors, enfin, après, ça se manifeste dans le vécu, dans la vie. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui deviennent différentes, mais vraiment très différentes. Quand j'ai vu Raphaël prier pour les malades, j'ai compris que si lui pouvait le faire, n'importe quel croyant pouvait le faire. Quand je l'ai vu guérir les aveugles au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, si lui peut le faire, moi je peux le faire. Et je l'ai fait, et ça fait maintenant, depuis 68, ça fait longtemps que je parcours le monde et que je fais ça. C'est devenu une seconde nature. C'est pas un don. C'est que j'ai compris quelque chose. Jésus a dit, tous ceux qui croiront, voici les miracles qui les accompagneront. Et il donne toute une liste. Ils imposeront les mains malades, les malades sans guérir. Et j'ai vu des milliers, des paralytiques, des sourds, des muets, des aveugles, même deux morts revenir à la vie. Dont un, ça faisait 3 jours qu'il était mort. Parce que ce que Jésus dit, c'est vrai, je l'ai compris quand j'ai vu Raphaël faire ça. Ça a passé très rapidement dans mon esprit, en 3 jours. Le 3e jour, j'ai commencé. J'ai prié pour mon premier malade, c'était un paralytique qui a acheté ses béquilles et qui s'est mis à marcher. Gloire à Dieu! Mais ça a passé par mon intelligence. Mon intelligence, c'était hyper simple. C'était si lui peut le faire, moi je peux le faire. Parce que lui, il a le nez au milieu de la figure comme moi. Donc si lui peut le faire, moi je peux le faire. C'était pas compliqué. Mais c'était intelligent. Je me suis pas dit, ah, c'est un super homme. Ce sera un super saint. Il va faire aucun péché. Bah, tu parles. Raphaël, c'est un homme comme vous et moi, hein. Une intelligence fermée, elle empêche la vérité d'atteindre notre esprit. Une intelligence fermée, c'est une intelligence pleine d'idées préconçues. Une intelligence fermée contredit et critique tout ce qui n'est pas conforme à ses idées, à son éducation. N'ose pas y... Ce sont ses propres notions qui constituent pour elle, pour cette intelligence qui est fermée, le critère de la vérité. Et c'est à cause de cette mentalité rigide que de nombreuses vérités divines n'ont jamais l'occasion d'entrer dans l'esprit de certains croyants, même des croyants. Ils ont la même Bible que moi. Ils disent, c'est la parole de Dieu. Alors on leur montre un texte. Ah oui, non, mais ça c'est plus bon pour aujourd'hui. Et on leur montre ça. Ah non, 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 ça c'était au début de l'église, mais plus maintenant. On leur montre, oh ben non, ça, non, faut pas pousser, faut pas être fanatique. C'est pas comme ça? Et depuis 68, je connais leur cirque, hein. Je sais comment ils sont. C'est comme ça. Ils ont des intelligences qui sont rigides. Leur vie spirituelle est murée. Ils se sont arrêtés au fait que Jésus est leur sauveur. C'est déjà pas mal. C'est bien. C'est super. Mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres choses dans la vie que de dire « Alléluia, Jésus est mon sauveur ». Par contre, une intelligence ouverte, elle va permettre à un individu d'apprendre rapidement des valeurs considérables d'une vérité qui, peut-être au début, lui avait paru un petit peu mince, étrange, bizarre. Mais maintenant, cette vérité, elle est éclairée par la lumière de son propre esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que si votre âme, votre intelligence, votre mentalité refuse certaines vérités, votre esprit, lui, il suit le mouvement. C'est pas vous marchez, c'est ce que la Bible dit, être charnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre être, c'est ça qui domine dans votre vie, c'est pas l'esprit. Vous croyez avoir de l'esprit, c'est pas de l'esprit, hein. Philippe Bouvard, il dit, lui, il a beaucoup d'esprit, parce qu'il dit beaucoup de bêtises. Avoir de l'esprit. Pierre Dac avait de l'esprit. Bien sûr que, mais c'est pas, ils n'emploient pas le mot juste, hein. C'est souvent comme ça que le croyant reçoit la vérité qui est en train d'être rétablie dans l'Église dans cette fin des temps des nations. Premièrement, ça lui apparaît tout à fait bizarre, dépourvu même d'intérêt. Et puis ensuite, il se met devant Dieu, il prie, il dit « Seigneur, éclaire-moi, je voudrais quand même savoir ». Alors, un peu plus tard, la lumière du Saint-Esprit vient rayonner sur son intelligence et lui fait découvrir les profondeurs de cette vérité et ça change la vie. Il arrive souvent qu'à ce moment-là, il ne puisse même pas expliquer, mais il sait. Il ne peut pas expliquer, mais il sait. Il a compris. Ça lui est difficile de l'expliquer, mais il a compris. Quelque chose que son âme a de la peine à exprimer, son intelligence a peut-être de la peine à exprimer, mais il sait. Regardez Raphaël, le gitan, c'est ni lire ni écrire. Pour lui, exprimer les choses, dire les choses, c'était pas facile pour lui. Il mettait tout son cœur, mais il pouvait pas aller très profond dans les choses, dans les mystères cachés des choses de Dieu, parce que c'était pas. Et puis c'était pas son ministère, parce qu'il avait jamais été à l'école, son intelligence n'était jamais vraiment développée, mais ce qu'il savait, il le savait. Et il le vivait. Alors, pour réussir, il faut ouvrir notre esprit. Une intelligence ouverte, elle laisse entrer la vérité, mais c'est l'illumination de l'esprit humain par le Saint-Esprit de Dieu qui rend cette vérité profitable et vivable, et ça va être profitable dans le vécu. Mais s'il n'y a pas une communion d'esprit à esprit, le Saint-Esprit de Dieu ne communique pas avec notre âme, c'est faux. C'est pas possible. C'est pourquoi il est écrit que pour l'incroyant, c'est pas possible de comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est pas avec l'intelligence qu'on comprend. Au début, oui, il peut y avoir... on se dit, ah, tiens, et puis alors, il faut creuser un peu, chercher... Demander à Dieu, avoir cette humilité. C'est pourquoi tous les composants de la vie du disciple doivent être tenus en bride. Vous savez ce que c'est, les brides, hein ? On tient un cheval en bride. Y compris l'intelligence, parce que l'intelligence, l'âme, c'est une vieille folle. L'âme, elle est dissipée. en pensant à un truc, en même temps pensant à un autre, pour mélanger tout. C'est l'indiscipline par excellence, et, avec toutes les émotions en plus, avec... Même si votre intelligence a été renouvelée une fois, ça ne suffit pas. Il faut continuellement se mettre dans la prière, dans le jeûne, pour pouvoir être renouvelé dans les choses de l'esprit. Elle a besoin, notre intelligence, d'être tenue en bride. Nous ne devons pas lâcher, on ne doit pas lâcher les rênes. De peur que des mauvais esprits viennent, hein, ne pensez pas quand je dis mauvais esprit, je ne pense pas à un cornu, mais vous fassent dévier dans des absurdités, plus ou moins nuisibles. Si vous ne tenez pas les rênes correctement, vous allez... Alors maintenant, on voit dans les églises, mais c'est effrayant, je regarde sur YouTube des gens dans les églises qui se roulent par terre, qui des trucs, c'est invraisemblable. Parce que, comme je vous l'ai souvent enseigné, la pensée, c'est une semence, c'est la semence de l'action. C'est-à-dire que toute action commence par une pensée. Il faut d'abord penser. Et si vous pensez faux, vos actions vont être fausses. C'est-à-dire que vous allez vous tromper. C'est ça le péché. Le péché, ça veut dire manquer le but. Vous avez une pensée qui est fausse, elle vous pousse dans une action qui est fausse. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est manquer le but. Vous n'avez pas été fait pour ça, vous avez été fait pour autre chose. Et ayant des mauvaises pensées, des pensées tordues, des pensées qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, ben vous péchez. Si vous vous permettez une négligence quelque part, eh bien ça va vous conduire invariablement à manquer le but, et il suffit de peu de choses. D'après l'Évangile, si vous marchez droit, eh ben, c'est bien, vous allez arriver au but que Jésus vous a fixé. Mais regardez, il suffit de bouger un tout petit peu les pieds. Au début, ça a l'air de ne pas changer grand-chose, mais vous allez complètement dans une autre direction. Et vous péchez. C'est-à-dire que vous manquez le but. C'est ballot. Hein. C'est pourquoi la Bible, c'est, comme disait Raphaël le Gitan, c'est une carte de route. C'est ce qui nous permet de toujours garder le but bien dans notre pensée. Une mauvaise pensée que nous hébergeons finira par produire, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, après des fois bien des années, des actes que Dieu ne peut pas admettre et qui vont vous rendre malheureux, vous, et Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Les gens sont malheureux, c'est horrible, il se passe des choses horribles sur cette terre et les gens accusent Dieu. Ils font quoi, eux ? Le libre arbitre, il faut s'en servir. C'est pourquoi un chrétien doit mettre toutes ses forces à maintenir ses pensées dans la discipline. Ouais, qui exagère. Là, tout à l'heure, j'ai une conférence vidéo avec des mormons. Ils sont très gentils, mais ils exagèrent. Bon, écoute, ils ne boivent même pas un petit coup de vin. C'est triste. En France, c'est triste, c'est impossible. Pardon les mormons, je vous adore, je vous aime beaucoup, mais bon, voilà, c'est vous exagérez. C'est des lois qui sont voilà, il ne faut pas abuser du vin, c'est tout. Mais un bon vin, ça... Si vous laissez votre vie mentale incontrôlée, vous ne pouvez pas être, vous pouvez être sûr de rien. Vous ne pouvez pas avoir l'audace de la foi parce que vous êtes sûr de rien. De quoi sera fait demain? Est-ce que je vais rencontrer la personne avec qui je dois me marier? Comment je peux être sûr? On voit quand même tellement de divorces. Maintenant, ça fout la trouille. Hein. Moi, je suis content, je suis vieux. Si vous laissez votre mental incontrôlé, vous êtes sûr de rien dans... C'est ça que l'apôtre entend quand il nous exhorte à ceindre nos reins, les reins de notre entendement. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'on réfléchissait avec le cœur et que les reins, c'était la force de notre entendement. C'était un vocabulaire de l'époque, c'est comme ça qu'on comprenait. Et voilà, puis maintenant on a compris que c'est autre chose, mais n'empêche que l'idée est bonne. Il faut ceindre notre entendement, c'est-à-dire, le mot ceindre, ça veut dire entourer, mettre une ceinture. Ou alors, ça veut dire aussi couronner, couronner. On ceint d'une couronne. Mettez une couronne sur votre entendement, c'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, c'est important. Il faut que votre entendement soit digne comme un roi. Ça signifie de garder nos pensées à leur place et de bien les entourer, de ne pas laisser n'importe quel parasite et de ne pas les laisser vagabonder à l'aventure, faire du n'importe quoi. De plus, l'intelligence, elle ne doit pas rester oisive. Elle doit toujours fonctionner. Par exemple, quand j'ai reçu la révélation qui est écrite au sujet du baptême à la place des morts, moi j'y croyais pas. Ça m'est tombé dessus comme ça en lisant la Bible. D'un coup, je dis, ah. Et des frères mormons m'ont donné quatre versets dans la Bible. Ils m'ont dit, vous cherchez avec ces quatre versets, mais ils m'ont donné aucune explication. Ils m'ont pas donné d'explication. Et j'ai prié, j'ai cherché, j'ai trouvé finalement. Et comment j'ai fait pour trouver? J'ai examiné, bibliquement parlant, si ça tenait la route. Ensuite, j'ai mis à l'épreuve de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire j'ai étudié ce qui s'est passé dans l'Église depuis le début jusqu'à aujourd'hui au sujet de cette doctrine, comment, pourquoi cette doctrine a été abandonnée au profit d'autres doctrines, des inventions humaines. J'ai cherché à comprendre. Et je me suis assuré que tout ça, ça venait de Dieu et non pas de mon imagination, parce que j'ai une imagination formidable. Je pourrais facilement me tromper, mais comme j'ai mon garde-fou, j'ai ma carte de route, et puis je suis pas un idiot, je peux aussi. Maintenant, c'est tellement facile en allant sur Internet de se renseigner et de savoir, de trouver ce qu'on cherche. Dieu ne nous demandera jamais de suivre quelqu'un ou un groupe à l'aveuglette. Ce n'est pas parce que des gentils mormons bien cravatés avec leur badge, leur machin, très polis, sont venus me dire. Non, 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 non. C'est moi qui leur ai posé la question, ils m'ont donné quatre versets, débrouille-toi avec. Voilà, c'était ça, en fait. Mais j'ai cherché, j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que mon intelligence était ouverte. C'est-à-dire que ça a permis à mon esprit d'être en communion avec l'Esprit de Dieu qui a inventé cette histoire du baptême pour les morts et qui était pratiquée jusqu'au IVe siècle et qui était ensuite diabolisée par l'Église catholique et remplacée par le purgatoire qui n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez? Alors vous pouvez vous moquer de moi parce que je pratique le baptême pour les morts. Moi, je ne me moque pas de vous parce que vous croyez au purgatoire puis que vous allez mettre des bougies. Pourtant, c'est faux. C'est pas ce qui est écrit de faire dans la Bible. Vous faites faux et vous moquez de moi qui fait vrai. Mais tu me dis, mais comment tu peux savoir que c'est vrai? Je dis, c'est parce que j'ai la carte de route. Je la lis. Je prie, je cherche avec un esprit ouvert. Je répète pas bêtement ce qu'on m'a dit. Je crois pas bêtement quelqu'un qui me dit, je suis infaillible, je sais tout. Ah bon, alors je vais le suivre. Non. Dieu veut qu'on soit lucide pour pouvoir saisir sa pensée. Pas encombré avec les traditions. Tout ce qui manque de clarté est sujet à caution. Notre intelligence ne doit jamais fonctionner dans l'indépendance. Elle ne doit pas s'émanciper du contrôle du Saint-Esprit. Mais encore faut-il être en contact avec le Saint-Esprit. La plupart des gens pensent qu'ils sont en contact avec le Saint-Esprit parce qu'ils ont des émotions. C'est pas le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les émotions. Je sens la présence de Dieu. C'est de la nouillerie. Pardon, je ne suis pas gentil avec vous. Il ne manque pas de chrétiens qui sont des Écritures en se fiant à leur capacité mentale. Mais la vérité qu'ils prétendent connaître n'est que dans leur tête, c'est que dans leur tête. Et tant que cette vérité, qu'est-ce que cette vérité produit? Elle produit, elle va enrichir leur documentation. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à prouver que ce qu'ils croient est vrai. C'est pas forcément vrai. C'est pourquoi beaucoup de non-croyants disent on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. C'est vrai, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. C'est absolument vrai. C'est pourquoi il vous faut être pas seulement intelligent, mais aussi spirituel. Mais ça, c'est... Quand je dis être spirituel, c'est un mot. Il faut le vivre pour savoir ce que ça veut dire. Frères et sœurs, il faut avoir l'humilité de réprimer tout désir que nous pouvons avoir de connaître simplement intellectuellement les choses. Ça ne suffit pas. Alors bon, notre intelligence doit fonctionner, mais elle a aussi besoin de détente. Parce que c'est notre être, c'est comme notre corps, notre intelligence, elle peut fatiguer aussi. Si vous laissez continuellement votre intelligence sous tension, c'est comme si vous alliez faire de la muscule 24 sur 24, c'est pas possible. Vous allez devenir malade. Vous devez régler vos activités, prévenir du surmenage, en un mot, garder le contrôle. Quand vous regardez le prophète Élie, dépressif, assis sous son genêt, en train de pleurnicher, dans la Bible on voit ça, il était accablé parce qu'il avait fait un excès d'activité mentale. Vous irez lire ça dans le livre des rois, le 1 roi 19. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il s'est surmené. Mais Dieu ne nous demande pas ça. C'est quand même curieux que les gens n'arrivent pas à trouver l'équilibre. Ésaïe 26, 3, 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est pas du sable mouvant, c'est un rocher, c'est fort, c'est solide. Mais encore faut-il se confier en lui parler, l'écouter, avoir une communion. Vous voyez, un cerveau agité est préjudiciable à la vie spirituelle aussi bien que au vécu. C'est souvent cette activité mentale désordonnée qu'il faut attribuer aux erreurs dans lesquelles sont tombés de nombreux chrétiens qui sont soit trop exaltés, soit trop mous. Tiède. Paul nous dit « Abstenez-vous de toute anxiété. » Philippiens 4, 6. Alors, donnez-vous du repos. Pensez à autre chose, un bon moment de sommeil, une distraction, un bon film, un peu de musique. Les préoccupations exagérées doivent être livrées au Seigneur avant qu'elle ne tourne à l'anxiété, parce que les gens en ce moment ont peur. On va lire ce fameux passage de Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, par des actions de grâce, c'est-à-dire de la reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la paix. Mais confiez-vous en Dieu. Ne faites pas tout seul, ou avec le conseil de gens qui sont pas régénérés, qui sont... La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, si vous vous abstenez des anxiétés, si vous vous abstenez des peurs, Dieu va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la paix, mais encore faut-il que vous vous confiez à lui, que vous lui parliez. Je parlais avec Lucas l'autre jour dans la voiture, il me dit... Moi, j'aime bien les réunions de prière qu'on a ensemble, mais les meilleurs moments pour moi, c'est quand je parle à Dieu dans la journée. Moi aussi, je suis comme ça. Je me rappelle la sœur Camélia. Elle parlait à Dieu, c'est une vieille gitane. Elle savait ni lire ni écrire, elle aussi. Elle parlait à Dieu toute la journée. Oh, merci Seigneur, pour le beau soleil. C'est super, je vais faire mon marché aujourd'hui, c'est génial. Il fait beau, gloire à Dieu. Oh mon Dieu, regarde ça, j'ai mis mes bras à l'envers. Quelle pécasse. Et tout. Voilà, ça c'était Camélia. Elle parlait à Dieu tout le temps. Mais quelle femme! Quel résultat dans sa vie! Je n'en connais pas deux comme elle. Une femme extraordinaire, rigolote en plus. Bon, maintenant, il y a un point, ça va être là, je vais terminer là-dessus, qui est important à noter. C'est que notre intelligence ne doit pas se laisser dominer par les émotions. Nous avons des émotions, c'est bien. Mais il ne faut pas se laisser dominer par nos émotions. Il y en a des négatives, il y en a des positives. Il faut toujours quand même tenir l'équilibre. Il ne faut pas se laisser dominer par les émotions. Notre intelligence, elle doit se reposer calmement sur Dieu. Calmement. Et fonctionner sur la confiance, ce que la Bible appelle la foi. Fonctionner sur la confiance. La confiance en quoi? La confiance en Dieu qui fait concourir toutes choses ensemble à notre bien. La confiance en nous-mêmes. Attends, je peux me faire confiance aussi en moi, non? Mais bien sûr que je peux me faire confiance en moi. Si je ne me fais pas confiance en moi, ben oui. Et puis faire aussi confiance aux autres, en étant quand même avec... oui, il faut être prudent, hein. Les autres, des fois, nous jouent les tours, c'est vrai. Donc, une confiance... En Dieu, on peut avoir toute confiance. En soi-même, c'est déjà un peu plus limité. Puis, attends, les autres, voilà, faire attention. On peut te tromper, hein. On connaît des gens qui nous ont roulé dans la farine. Mais il faut quand même faire confiance, au départ. Il ne faut pas être soupçonneux, suspicieux, tout le temps, hein. Non. Avoir un esprit ouvert. C'est ça que Paul entend quand il nous exhorte à cultiver une intelligence saine. Et je vais terminer avec ce verset dans 2 Timothée 1, verset 7. Il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Notre esprit, cette chose éternelle qui est venue dans notre corps, et nous sommes nés, nous sommes devenus un être vivant. Cet esprit que Dieu a mis dans notre corps, il est fort, il est sage, mais il se met jamais en avant. Parce que Dieu ne le lui permet pas. C'est notre âme d'abord, notre intelligence, et puis ensuite, notre âme ouvre la porte et notre esprit peut commencer à se manifester et nous devenons des êtres spirituels, non pas simplement des êtres, comme la Bible dit, charnels, c'est-à-dire guidés par l'intelligence qui est des fois un peu tordue, ou par soi-même ou par les autres, ou par des émotions qui sont déréglées, ou par des situations qui sont pénibles. Notre esprit, lui, est fort et stable. C'est le don de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, notre corps retournera à la poussière d'où il est venu et que notre esprit retournera vers Dieu qui l'a donné. Et notre âme alors, eh bien, elle sera sauvée ou perdue. C'est-à-dire, elle ira, comme on dit, au paradis, c'est-à-dire vraiment en présence de Dieu, ou alors elle sera détruite. Voilà, terminé. Mais notre esprit, lui, il est éternel. Qu'est-ce que je vous dis de plus? C'est vous qui décidez, avec votre libre arbitre, de choisir le bien plutôt que le mal, de choisir la discipline plutôt que la dissolution, de choisir... Voilà, c'est pas compliqué. C'est tout le message de l'Évangile. Jésus dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Jésus, je te prie que chaque personne qui a entendu ce message ce matin puisse comprendre avec son intelligence que maintenant il faut se confier en Dieu et recevoir de Dieu ce qui est bon pour la vie. Merci Jésus. Veuillez bénir chacun et chacune et les encourager à marcher droit tous les jours de leur vie. Et si jamais il leur arrive de faire une bêtise, de ne pas se décourager, mais de revenir vers toi comme on vient vers un père et disons, Seigneur, regarde, j'ai encore fait une bêtise. Et Dieu va vous pardonner et il va oublier tout ça et il va vous laisser passer jusqu'au paradis, jusqu'à ce but merveilleux que tu nous as préparé. Merci Seigneur pour ce paradis que tu nous prépares. Et merci mon Dieu de permettre qu'une multitude de ceux qui entendent sur Révélation Bible ces choses puissent adhérer, non pas à notre groupe, mais adhérer à ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.